Quelle semaine, non ? Quelle semaine ! Commémoration des attentats de Charlie Hebdo, le même jour décès de Jean-Marie Le Pen, avec des scènes de liesse partout en France, tandis que Paris Match se délectait des larmes de sa fille Marine. Donald Trump qui veut annexer le canal de Panama, le Groenland, faire du Canada le 51e État des États-Unis. Elon Musk qui fait l'éloge de l'extrême droite allemande. On sent qu'on avance vers un monde apaisé, hein. Tranquille, serein. Alors, je ne sais pas vous, mais moi, je suis vraiment content de terminer cette semaine avec un baptême. Et j'allais dire, et quel baptême ? Excusez-moi, il ne s'agit pas de comparer les baptêmes. Mais c'est vrai que celui-là a une saveur particulière me concernant, parce que c'est vrai qu'on a passé du temps ensemble, hein. On a passé du temps ensemble. Et c'était super, c'était vraiment super. Et c'est d'autant plus super que ça a été évoqué dans les prières. C'est même pas une fin, là. C'est un commencement. Alors, c'était une grosse semaine. Et cependant, même un jour comme aujourd'hui, et peut-être devrais-je dire surtout un jour comme aujourd'hui, ces tensions internationales que j'ai mentionnées tout à l'heure ne nous sont pas étrangères. Parce qu'elles démarrent dans le cœur de l'homme, dans ce qu'il croit d'abord, puis dans ce qu'il est, et en conséquence, dans ce qu'il fait. Et donc, on est concerné. C'est vrai qu'on n'a pas tous le pouvoir d'un Donald Trump ou une voix qui porte autant que celle de Charlie Hebdo ou de la famille Le Pen. Dans ce monde qui a fait allégeance à Mammon, le dieu de l'argent, on n'a pas non plus l'influence que peut avoir un multimilliardaire qui a les moyens financiers de ses ambitions. Mais on a en commun avec eux un cœur. Et on a aussi la responsabilité de ce qu'on en fait. Parce que c'est de là que démarre la grande réconciliation entre Dieu et sa création, entre Dieu et les hommes, et par effet rebond, entre nous, hommes et femmes de toute nation, de toute condition, ensemble. Qu'on en est loin, ou pas, puisque le retour du Seigneur nous surprendra comme un voleur. Et en attendant, notre propre action, en tant que chrétien, devrait probablement être prophétique. Et notre levier d'action, lui, est tout proche. Alors, je vous propose de commencer par là. Et le texte qu'on va aborder ce matin nous donne une clé précieuse pour ça. Mais avant, comme à mon habitude, je vais prier. Seigneur, c'est bien humblement que nous nous approchons de ta parole à nouveau ce matin. Et en même temps, avec... plein d'attentes, le cœur plein d'attentes, parce que nous savons que cette parole, ce n'est pas une vieille parole de l'Antiquité comme il y en a d'autres, comme la guerre des Gaules de Jules César ou je ne sais quoi, Seigneur, c'est une parole différente parce que c'est une parole qui émane de toi. Et c'est une parole vivante. Une parole, on l'a déjà entendue ce matin à plusieurs reprises, qui est capable de transformer des vies, de changer des cœurs. Pour ça, on sait qu'on a besoin de l'aborder autrement qu'avec notre seul intellect. On a besoin de l'aborder avec ton Esprit Saint, l'assistance de ton Saint-Esprit. Et c'est ce que nous te demandons maintenant, Seigneur, que ton Saint-Esprit souffle sur nous, illumine nos cœurs pour que nous puissions accueillir cette parole pour ce qu'elle est, c'est-à-dire parole de Dieu, capable de transformer des vies. C'est au nom de Jésus que nous te prions. Amen. Alors, on poursuit notre série sur l'Épître aux Colossiens. Et on arrive donc au chapitre 3, versets 12 à 17, qui nous disent ceci. Ainsi donc, vous qui êtes choisis par Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous d'une tendresse magnanime, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres et faites-vous grâce. Si quelqu'un a à se plaindre d'un autre, comme le Seigneur vous a fait grâce, vous aussi faites de même. Mais par-dessus tout, revêtez-vous de l'amour qui est le lien parfait. Que la paix du Christ à laquelle vous avez été appelés en un seul corps règne dans vos cœurs. Soyez reconnaissants. Que la parole du Christ habite en vous avec toute sa richesse. Instruisez-vous et avertissez-vous en toute sagesse par des cantiques, des hymnes, des chants spirituels. Dans la grâce, chantez à Dieu de tout votre cœur. Quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant grâce par lui à Dieu le Père. Vous êtes vraiment une bande de bons à rien. C'est ce qu'aurait pu dire Paul aux Colossiens, ça vous rassure, hein ? C'est ce qu'il aurait pu dire aux Colossiens. On a vu jusqu'ici, au long de cet épître, son insistance auprès d'eux pour qu'ils grandissent un peu, quoi. Il leur dit « Vivez en Christ, enracinez-vous, construisez-vous en lui, affermissez-vous dans la foi ». Il leur dit « Je suis là pour porter tout être humain à son accomplissement dans le Christ, c'est pour ça que je me donne de la peine ». Et je veux que vous sachiez quel grand combat je soutiens pour vous. Que personne ne vous abuse par de beaux discours, par une philosophie trompeuse et vide. Il leur dit, faites mourir ce qui n'est que terrestre, l'inconduite sexuelle, l'impureté, les passions, les mauvais désirs, l'avidité qui est idolâtrie. Et Paul, il ne parle pas pour le plaisir de parler. Il parle en fait sur la base de ce qu'il observe dans cette communauté. Visiblement, il y a là des gens qui sont mal affermis dans leur foi, des gens qui se laissent porter à tout vent de doctrine, des personnes un peu trop complaisantes vis-à-vis de leurs propres péchés. « Vous êtes des bons à rien », aurait pu dire Paul. « Vous n'avez rien compris. » Et pourtant, ça n'est pas ce qu'il dit. « Je suis nul. Je ne suis pas à la hauteur. J'y arriverai jamais. » Si tu savais de quoi sont faites mes pensées, vous n'avez jamais vu des personnes s'auto-dénigrer comme ça ? Il n'est pas rare qu'on ait repris à notre compte des paroles qui ont été prononcées sur nous, et parfois même des choses qui n'ont même pas été dites, mais que notre entourage a fait peser sur nous de tout son poids. On t'a peut-être jamais dit que tu étais nul, mais on t'a jamais fait confiance non plus. On t'a jamais dit qu'on t'en voulait, mais on t'a toujours fait payer une faute dont tu ne connais même pas la teneur. On t'a jamais dit qu'on t'aimait pas, mais on t'a jamais prêté la moindre attention. Alors tu t'es construit en te pensant incapable, coupable, pas aimable. Et dans ce jeu-là, on est tous à la fois victimes et bourreaux, parce qu'on est tous tombés dans la défiance à des moments où ça n'en valait pas la peine. On a tous soupçonné le mal à tort à un moment ou à un autre. On a tous manqué d'attention vis-à-vis de quelqu'un qui en aurait eu besoin. Ça, c'est, je crois, hélas, assez inévitable. Ce qui est évitable, en revanche, c'est de tomber dans les mensonges du diable qui s'accroche à ça, lui, pour nous dire que nous sommes inutiles, coupables et mal aimés. Eh bien, Paul dit « Vous êtes choisis par Dieu ». Il dit « Vous êtes saints ». Il dit « Vous êtes bien-aimés ». Et en fait, à travers Paul, évidemment, c'est Dieu qui parle. Et si vous êtes choisis par Dieu, et vous l'êtes, alors vous êtes en sécurité. Vous passerez comme tout le monde par les vicissitudes de la vie, par ses peines, par ses joies, par ses moments de grâce, par ses épreuves. Vous connaîtrez des moments de justice et aussi des moments de profonde injustice, mais vous ne cesserez jamais d'être dans la main de Dieu. Et ce n'est pas synonyme de confort, on le sait. En fait, les martyrs eux-mêmes n'ont jamais cessé d'être dans la main de Dieu. Et c'est magnifique de voir ce que cette conviction est capable de produire dans les moments les plus extrêmes. C'est par exemple Étienne, en acte 7, qui dit juste avant d'être lapidé, « Je vois les cieux ouverts et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu ». Alors on se dit, oui, mais lui, c'est dans la Bible, c'est un grand. Bon, alors plus près, c'est Martin Luther King qui, le 3 avril 1968, à la veille de son assassinat, dit lors de sa dernière prise de parole publique, Dieu m'a permis d'atteindre le sommet de la montagne. J'ai regardé autour de moi et j'ai vu la terre promise. Il se peut que je n'y pénètre pas avec vous, dit-il la veille de son assassinat. Mais je veux vous faire savoir ce soir que notre peuple atteindra la terre promise. Alors je suis heureux ce soir. Je ne m'inquiète de rien, dit-il. Je ne crains aucun homme parce que mes yeux ont vu la gloire de la venue du Seigneur. Ça ne met pas des frissons, ça ? Voilà le type de sécurité qu'apporte cette simple parole quand on y ajoute foi. Vous êtes choisis par Dieu. Mais ce n'est pas tout, ça serait déjà pas mal. Paul dit également, vous êtes saints. Non pas vous serez saints, non, vous êtes saints. C'est-à-dire que vous êtes mis à part par Dieu et pour Dieu dès maintenant. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire beaucoup de choses, mais ça veut dire entre autres que ce n'est pas lui qui vous remet votre péché sous le nez à longueur de temps. Lui, il porte sur vous cette magnifique parole, « Vous êtes saints !» C'est le regard qu'il porte sur vous. Dieu fait avec vous le pari de la confiance. Dieu prend sur lui tous les risques, parce que peut-être que vous allez piétiner sa grâce. C'est possible, et Dieu l'assume. Jésus n'a pas attendu que vous soyez digne et capable pour mourir en votre faveur à la croix. Il n'a même pas attendu que vous demandiez pardon pour donner sa vie afin que vous puissiez être effectivement libre, pardonné et libre. Alors que nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous, dit Paul en Romains 5. Et c'est ça la grâce. C'est Dieu qui prend tous les risques en portant un regard favorable sur nous. Vous êtes capable. Voilà ce que Dieu vous susurre à l'oreille. Je te fais confiance. Tu vas aller faire les bons choix. Tu vas prendre la bonne route. J'en fais le pari et j'en assume tous les risques. Alors toi, vis sans crainte. Vis libre. Ose. Essaye. N'aie pas peur. Ne crains pas de te tromper. Avance avec moi. Et finalement, vous êtes bien aimé, dit Paul. Dieu vous aime, c'est peut-être la phrase la plus galvaudée de toute l'histoire récente du christianisme. Et pourtant, je crois que c'est la plus profonde et la plus capable de restaurer une vie de fond en comble. Au verset 14, Paul insiste particulièrement sur l'amour. Il dit « Mais surtout, surtout, revêtez-vous de l'amour, qui est le lien parfait. » Et en 1 Corinthiens 13, on a cet écho aussi à ce texte hein, où il dit encore « Maintenant, trois choses demeurent, la foi, l'espérance et l'amour. » C'est quand même pas rien, la foi et l'espérance. Eh bien, lui nous dit « Le plus important, c'est l'amour. » Tous les soirs, à la maison, nous répétons le même rituel. Quand nous couchons nos enfants, nous leur disons, Anna et moi, tous les soirs, nous leur disons que nous les aimons et que nous les aimerons toujours, quoi qu'il arrive, quoi qu'il arrive. Et parfois, vous savez, c'est les discussions du soir avec des enfants de 9-10 ans, là. C'est toujours là qu'il y a des grandes questions existentielles quand c'est le moment d'éteindre la lumière. Parfois, on disserte un peu sur le « quoi qu'il arrive ». Ça veut dire quoi, en fait, « quoi qu'il arrive » ? Eh bien, ce n'est pas très compliqué. « Quoi qu'il arrive », ça veut dire « quoi qu'il arrive ». Et Paul dit ça dans ses mots à lui quand il dit « Je suis persuadé que ni mort, ni vie, ni ange, ni principat, ni présent, ni avenir, ni puissance, ni hauteur, ni profondeur, on dirait qu'il lui manque du vocabulaire pour dire à quel point c'est quoi qu'il arrive, ni aucune autre création ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu en Jésus-Christ, notre Seigneur. Dieu nous aimera toujours, quoi qu'il arrive. » Et vous savez quoi ? Vous êtes choisis par Dieu, saint et bien-aimé, c'est une vérité qui, lorsqu'on lui prête foi, vient régler en fait un paquet de problèmes dans nos vies. C'est une vérité qui, en fait, nous permet de vivre ce à quoi Paul nous invite dans la suite du texte qu'on a lu tout à l'heure et qui peut, à bien des égards, nous sembler hors de portée. Vous êtes choisis par Dieu, saint et bien-aimé, répond à trois besoins fondamentaux. On les a effleurés maintenant. On va aussi voir ce que ces besoins comblés nous permettent de vivre. Le premier besoin, c'est le besoin de sécurité. Parce qu'en fait, comment est-ce que vous voulez vous revêtir, comme le demande Paul, d'une tendresse magnanime, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience, si vous êtes pétri de peur, peur du rejet, peur de l'abandon, peur de ne pas être à la hauteur? Mais quand vous n'avez plus peur, parce que vous vous êtes sécurisé dans cette affirmation puissante de Dieu, que vous êtes choisi par Dieu, vous n'avez plus besoin d'envahir la Pologne pour vous sentir en sécurité. Vous n'avez plus besoin d'agresser votre conjoint, vos enfants, votre collègue. Vous êtes en sécurité parce que Dieu vous aime, quoi qu'il arrive. Le besoin d'être accepté ensuite. Supportez-vous les uns les autres et faites-vous grâce, dit Paul. Mais là encore, comment est-ce que vous voulez réaliser une telle prouesse si vous ne vous supportez pas vous-même? S'il pèse constamment sur vos épaules l'accusation d'être incapable, de jamais être à la hauteur des exigences d'un Dieu tyrannique ou plus prosaïquement, de vos parents, de votre supérieur, de votre conjoint, de votre pasteur, ou pire, de vous-même. Il est possible, et il est même assez probable pour tout dire, que les hommes ici-bas vous chargent d'attentes irréalistes et vous mettent en conséquence en situation de sentir tout le poids de vos insuffisances supposées, tout le poids de votre incompétence supposée. Et s'il en est de même de Dieu dans votre vie, si Dieu vous fait sentir le poids de votre insuffisance, de votre incompétence, excusez-moi de vous le dire, vous n'êtes pas devant le Dieu de Jésus-Christ. Vous êtes devant une idole, un démon déguisé en ange de lumière peut-être, mais un démon tout de même, qui vient faire peser sur vous un joug que tout à sa rébellion vis-à-vis de la grâce de Dieu, il ne veut pas être seul à porter. Alors il le met sur vos épaules aussi. Le Dieu de Jésus-Christ, lui, vous dit, vous êtes saint. Vous êtes saint. Vous faites peut-être des erreurs, et c'est pour ça qu'on a besoin de se faire grâce les uns aux autres, mais ça ne fera jamais de vous un incompétent dans votre identité profonde. Ça ne fera jamais de vous un nul ou un incapable, parce que vous êtes saint. Ça, c'est le regard que Dieu pose sur vous. Et Paul est assez clair, je crois, quand il dit « Faites-vous grâce comme le Seigneur vous a fait grâce ». Alors recevez cette grâce de Dieu, qui n'attend rien de vous, mais qui espère tout, qui n'exige rien, mais qui croit que tout est possible. Parce que si vous ne la recevez pas, cette grâce, vous aurez un mal de chien, et c'est bien normal, à faire grâce à ceux qui vous entourent. Regardez où votre cœur vous condamne. Et dites-vous, répétez-vous jusqu'à satiété, puisque la Bible elle-même le dit en 1 Jean 3, verset 20, que si ton cœur te condamne, Dieu est plus grand que ton cœur et il connaît toutes choses. C'est pas beau ça ? Si ton cœur te condamne, Dieu est plus grand que ton cœur. Et finalement, il y a le besoin d'être aimé. Que la paix du Christ, dit Paul, à laquelle vous avez été appelés en un seul corps, règne dans votre cœur. Soyez reconnaissants, comme si ça pouvait se décréter. Allez, zou, maintenant, paix du Christ, tu règnes dans mon cœur. En vrai, c'est possible, parce qu'on a un champ d'action qui nous permet effectivement de décréter par l'Esprit de Dieu des choses sur nous-mêmes, sur notre propre vie, qui sont contraires à ce que nous ressentons dans notre âme, pour la rééduquer, rééduquer notre âme qui s'est fourvoyée dans des mensonges. Mais ces affirmations, ce n'est pas une nouvelle méthode couée, ce n'est pas une manière de s'auto-persuader. Ces affirmations s'appuient sur une vérité qu'on a à intégrer, à faire nôtre par la foi, et cette vérité, c'est que nous sommes bien aimés de Dieu, fondamentalement aimés de Dieu. Et c'est de là que naît la paix du cœur. Parce que si je ne me sens pas aimé, comment est-ce que vous voulez que la paix règne dans mon cœur ? Revêtez-vous de l'amour, dit Paul, qui est le lien parfait. Enveloppons-nous de l'amour du Christ en accueillant cette vérité. Dieu nous aime. Il nous aime, quoi qu'il arrive. Et à partir de là, alors on pourra aimer les autres. Alors vous me direz peut-être, c'est bien joli tout ça, mais c'est quand même très utopiste. et je vous répondrai à ça un pas à la fois. En 2006, j'ai fait le projet, un peu fou, de parcourir 1500 km à pied en 2 mois de marche. Alors quand je me suis retrouvé un matin du mois d'avril 2006 en haut du parvis de la cathédrale du Puy-en-Velay, qui était le lieu de départ de mon voyage vers Saint-Jacques-de-Compostelle, je vous le dis franchement, j'ai été pris d'un vertige. Ça, c'est la vue que j'avais à ce moment-là. Et je faisais bien quelques randos de temps en temps, si vous voulez, mais enfin, 1500 km à marcher tous les jours, sac au dos, j'avais un peu de mal à me projeter, je ne vous cache pas, quoi. Je regardais en contrebas du parvis et je voyais ce que vous voyez là, le bout de la rue, et j'imaginais la carte de France et la carte d'Espagne dans ma tête, et Saint-Jacques-de-Compostelle, mais ça paraissait au bout du monde. C'était loin. Comment est-ce que je pouvais imaginer même atteindre ce but ? En fait, je ne pouvais pas imaginer atteindre ce but. Et peut-être que pour vous, aujourd'hui, là, vous revêtir d'une tendresse magnanime, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience, c'est l'ascension du Mont Blanc, quoi. Peut-être que de supporter votre frère, vous qui avez déjà tant de mal à vous supporter vous-même, c'est l'Everest. Peut-être que le règne de la paix du Christ dans votre cœur, c'est l'Himalaya. À l'aube de ce matin du mois d'avril de 2006, pour ma part, j'ai renoncé à l'idée d'avoir pour but d'atteindre Compostelle. À la place, je me suis dit quelque chose qui vous semblera familier si vous avez déjà lu la Bible. À chaque jour suffit sa peine. Et chaque matin, mon objectif renouvelé était très modestement d'atteindre l'étape du soir. C'est déjà pas mal. Par contre, ça, je m'en donnais les moyens. En prenant soin de mes pieds, par exemple. En me reposant suffisamment, en anticipant le repas suivant et le coucher du soir. Et c'est ainsi qu'un pas après l'autre, un jour après l'autre, une semaine après l'autre, j'ai appris que le chemin était aussi important que le but. Et alors que tu te crois presque arrivé, en fait, t'en reprends pour quelques dizaines d'années. Alors, je vais expliquer un peu parce que tout le monde ne sait pas ce que je suis en train de montrer, mais c'est mon épouse qui est là. C'est la première photo, c'est un scoop, hein. Vous avez là la toute première photo que j'ai prise de ma femme qui n'était pas encore ma femme, qui était juste une charmante jeune femme qui donnait du café gratuit aux gens qui passaient. Donc comme c'était gratuit, je me suis arrêté évidemment. Et voilà, et puis j'ai vu son beau sourire. Et la suite, c'est pas pour tout de suite, je vous la raconterai un autre jour, si vous la voulez. D'ailleurs, bon, petit aparté, on voit que l'équipe était... Elle était au sein d'une équipe d'Allemands. Et je trouve que ça se voit, il y a un détail qui permet de s'en rendre compte sur la photo, le fameux claquette chaussette. Voilà. Mais voilà. J'arrête là parce que c'est pas ça le sujet, en fait. Pardon. Je m'égare. On va poursuivre parce que je ne me suis pas arrêté là, bien que j'aurais pu, en vrai. Mais finalement, l'histoire, c'est celle-ci. Attention, la photo suivante, elle est... Hop, voilà. Je suis arrivé un début d'après-midi du mois de juin sur le parvis d'une autre cathédrale, tout là-bas, au nord-ouest de l'Espagne, plus de 1500 km après mon point de départ. Et comme mes pieds ont largement contribué à l'affaire, j'ai voulu garder un souvenir. Et Paul, en fait, nous invite à faire de même. Que la parole du Christ habite en vous avec toute sa richesse, dit-il. C'est pas quelque chose qui va se faire du jour au lendemain, ça. Que la parole du Christ habite en vous avec toute sa richesse. Instruisez-vous, dit Paul. Pour les apôtres qui étaient au pied du maître, qui passaient tout leur temps avec lui, ça a pris 3 ans. Ben, il n'y a pas de raison pour que nous, ça se fasse en 3 jours, en fait. Avertissez-vous en toute sagesse par des cantiques, des hymnes, des chants spirituels. Dans la grâce, chantez à Dieu de tout votre cœur. Quoi que vous fassiez en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus en rendant grâce par lui, à Dieu le Père. Ça, c'est le programme d'une vie. Et ce programme d'une vie, il se décline, en revanche, tous les jours. Un peu, mais tous les jours. Parce que si un peu tous les jours, vous vous imprégnez de la parole du Christ, si vous la méditez, si vous louez Dieu, si vous parlez ou œuvrez au nom de Jésus, si vous lui exprimez votre reconnaissance, eh bien vous verrez effectivement votre être intérieur se renouveler à l'image du Christ. Et ce qui vous paraissait impossible au départ du Puy-en-Velay, vous le verrez de vos yeux à Saint-Jacques de Compostelle. Alors, quand on arrive à la fin d'une prédication, il est usuel de nouer la gerbe, vous voyez, en reprenant des éléments de l'introduction. Mais je ne vais pas vous parler de Charlie Hebdo, de Le Pen ou de Trump, déjà parce que, ça ne m'amuse pas. Mais aussi parce qu'en fait, l'introduction de cette prédication ne remonte pas à 20 minutes en arrière. Elle remonte même pas au 6 novembre 2022, où Sandrine a mis les pieds pour la première fois dans notre église. L'introduction de cette prédication, pour moi, de mon point de vue, dans mon expérience en tout cas, remonte au jour où Jérôme, son mari, m'a dit à quel point il aimerait que Sandrine vienne un jour à l'église. Mais que ce n'était pas gagné, parce qu'elle n'était pas à la veille de sacrifier effectivement un dimanche matin de grasse mat. Et pour être très franc, maintenant que je la connais un peu mieux et que je vois de quoi sont faites ces semaines, je la comprends, le dimanche n'est vraiment pas de trop pour trouver un peu de repos dans sa vie. Seulement voilà, Dieu fait des miracles, il ouvre la mer en deux, il ressuscite les morts, il fait lever Sandrine un dimanche, il est trop fort notre Dieu. Ou alors, peut-être que c'est parce que finalement, et ça revient au même en fait, ça fait du bien d'entendre au moins une fois par semaine une parole vraie sur ce que je suis. Ça fait du bien de se réentendre dire autant de fois que nécessaire que je suis choisi par Dieu, saint, bien-aimé. Peut-être parce que finalement, ça fait du bien de s'approcher de la parole de Dieu, d'exprimer au Seigneur notre louange, d'être reconnaissant vis-à-vis du Christ qui nous a sauvés. Peut-être parce que finalement, ça fait du bien d'être restauré petit à petit dans ce qui nous a meurtris tout au long de nos existences, mensonge après mensonge, en reconnaissant ce qui est vrai. Je suis pécheur. J'ai besoin de la grâce de Dieu. Et la bonne nouvelle, c'est qu'elle existe, cette grâce, qu'elle s'est pleinement manifestée en Jésus-Christ et que partout où je me repens de mon péché et où j'accueille cette grâce, la restauration et la guérison arrivent. L'expérience du salut arrive. Peut-être que finalement, c'est ça, le vrai repos dont nous avons toutes et tous profondément et fondamentalement besoin. Je vais prier. Seigneur, c'est toi qui es notre repos, notre vrai repos, celui qui restaure nos corps, nos âmes, nos esprits. Tu dis que ton joug est léger, qu'il est facile à porter. Seigneur, nous te croyons parce que nous le vivons, nous l'expérimentons, Seigneur. À chaque fois que nous faisons ce chemin de reconnaître qui nous sommes devant toi, qui tu es devant nous, et d'accueillir ta grâce. Tu es le créateur du ciel et de la terre, nous sommes des créatures, et pourtant tu tournes ton regard vers nous, tu portes ton regard vers nous, tu te soucies de nos vies dans les moindres détails. Tu te rends présent, tu nous donnes des signes tangibles de ta présence dans nos vies. On en a entendu plusieurs ce matin. Et tu nous donnes de ces signes, y compris quand nous te rejetons, nous te tournons le dos. Puis après, quand on regarde en arrière, on se rend compte de ces moments où, en fait, tu étais là, tu étais présent. On se rend compte de ta fidélité, alors même que nous ne te voyions pas, on ne te reconnaissait pas, on te rejetait. Et alors, notre cœur s'ouvre et on est plein de reconnaissance. Et ça change une vie. Seigneur, je te remercie pour ce que tu as fait dans la vie de Sandrine. Je te remercie pour ce que tu as envie de faire dans la vie de chacun d'entre nous aujourd'hui, qu'on soit dans un moment où on se sent proche de toi ou qu'on soit dans un moment où on se sent terriblement éloigné. Ou qu'on soit dans un moment peut-être où on est complètement indifférent à qui tu es. Seigneur, toi tu poses des jalons. Je te prie pour que les yeux qui sont fermés aujourd'hui puissent s'ouvrir sur qui tu es, sur ton amour, sur la façon dont tu nous accueilles, la façon dont tu nous sauves. Merci pour le sacrifice de ton Fils à la croix. C'est au nom de Jésus que je te prie. Amen. Alors on va